Albert Mémy, vous avez été un jeune homme révolté.
Ah, ça, c'est sûr.
D'où venait cette révolte?
Vous savez, dans ces cas-là, il y a toujours deux sources probables. Il y a une source apparente et réelle. C'est la l'heure avec le groupe, avec le milieu, avec une situation historique qui était, disons-le, un peu scandaleuse, puisque j'appartenais à une minorité dans une dans un peuple qui lui-même était dominé. Donc il y avait deux étages un peu dans cette aliénation.
Juif en Tunisie.
J'étais juif en Tunisie. C'est-à-dire, au fond, j'étais juif indigène, je n'étais pas de nationalité française. J'étais donc soumis aux lois de l'indigénat. Et en plus, je faisais partie d'une majorité musulmane qui avait vis-à-vis des juifs des sentiments à la fois très proches et à la fois ambigus. Enfin, comme il arrive toujours dans ces contacts de groupements, de vieux groupements qui vivent ensemble, qui ont une histoire tourmentée. Donc, il y avait de quoi. Bon, en plus, je n'appartenais pas à un milieu particulièrement aisé économiquement, parce que mon père était bourrelier, artisan bourrelier. Donc, dès que j'ai ouvert les yeux, comme jeune homme, j'avais toutes sortes de problèmes, les difficultés de faire les études que je voulais faire. Je les ai faites, du reste. Mais enfin, bon, mais ça a été moins facile, si vous voulez. Ça, c'est l'explication socio-historique, comme on dit dans le métier.
Ouais.
Qui est vrai. Je ne rabats pas. Mais cela dit, bon, également, si l'on se place sous l'angle de la psychologie ou de la psychanalyse, il est certain que tous les gens, ce que disent toujours les psychologues dans ces cas-là, tous les gens qui se sont trouvés dans une situation difficile historiquement n'ont pas tous réagi de la même manière. Donc il faut croire que par tempérament, par goût, par caractère, je ne devais pas être très commode. Et il semble que je n'ai pas été très commode.
Mais c'est cette révolte qui a été à la source de la carrière que vous avez eue par la suite. Parce que ce que vous avez écrit, vous vous êtes abreuvé à cette révolte.
Oh, sûrement. Certainement.
Donc elle était dynamique et dynamisante.
Oh, sûrement. Vous avez toutes les... J'allais employer un gros mot, j'allais dire que toutes les névroses sont dynamisantes.
Pas toutes, quand même. Pas toutes. Il y en a qui sont paralysantes.
Qui sont paralysantes, c'est vrai. Bien entendu, une situation difficile, disons romantiquement. Hein. Quand je parlais de ces problèmes-là à un ami... plus tard, il me disait « Mais tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Regarde-moi, je suis dans un milieu bourgeois, j'ai toutes les facilités, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis marié, j'ai des enfants, je gagne ma vie, et tout ça. Mais toi, tu as fait quelque chose parce que tu as des difficultés. » À quoi je répondais, on peut discuter sur le prix que l'on paye, les difficultés, le prix que l'on paye des réussites, entre guillemets. Enfin, ça, c'est un... enfin, je crois que vous avez répondu,
oui.
Grosso modo.
Vous étiez très idéaliste.
Ah oui, sûrement. Non, ça, en plus, j'ai oublié de vous dire que très tôt, j'ai participé à tout ce qui pouvait exister de mouvements de jeunesse, de groupes. Nous pensions, l'histoire nous a infligé des mentires assez épouvantables, puisque quelques années après, ça a été la guerre d'abord, le camp, ensuite l'après-guerre, la décolonisation, les conflits, enfin bref. Mais nous pensions très sincèrement, maintenant quand j'y repense, ça ne faisait aucun doute pour nous que nous étions engagés dans un processus de libération, de transformation du monde, que tôt ou tard, nous allions donner le bonheur à tout le monde autour de nous, que la société allait changer, que les gens... et que les salauds allaient être battus, naturellement, et que les margeaux allaient se trouver mieux, c'est
oui.
Sûr.
Oui. Mais il y a une chose à laquelle vous avez échappé, et beaucoup de gens de votre génération n'y ont pas échappé, c'est que ces idées auxquelles vous croyez, ce ne sont pas des idées qui ont tué des gens. Autrement dit, vous n'avez pas cautionné des idéologies qui ont été destructrices.
Non, mais c'est même le contraire, puisque l'idéologie auxquelles nous croyons, par exemple, prenez une idéologie un peu mineure, d'ailleurs, un peu gnangnan, qui était le scoutisme et puis ensuite les auberges de la jeunesse. Bon, les auberges de la jeunesse, on s'en est beaucoup moqué après, on a beaucoup rigolé sur ces champs, ces promenades au clair de lune, et puis, etc. Mais c'est vrai que c'était très pur et très gentil. Qu'est-ce qu'on voulait? Au fond, on voulait que tout le monde se mette à chanter, on voulait que tout le monde soit bien. Et puis ensuite, alors nous avions de la guerre, une espèce d'horreur, nous trouvions que c'était une chose épouvantable, scandaleuse, un piège du capitalisme, enfin, etc. etc. Bon, le fait est que nous n'y avons pas échappé, que 3 ou 4 ans plus tard, nous avons été entraînés tout le monde dans la tourmente. Mais non, nous n'avons rien cautionné du tout. De ce côté-là, vous savez, Madame Bombardier, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde, bien sûr, je regrette. Des choses dont j'ai honte, même quelquefois, je ne vous les raconterai pas.
J'allais dire comme quoi, par exemple?
Non. Oh, des faiblesses.
Enfin, vous n'avez pas cautionné le stalinisme.
Non,
vous
jamais.
N'avez pas, vous n'avez
jamais.
Pas, bon, voilà.
Non, jamais. Je peux même vous dire une chose. Justement, quand je récapitule, je m'aperçois que cet esprit de révolte auquel fait allusion m'a préservé de beaucoup de choses. En ce sens que quand j'avais 15 ans, il y avait au lycée Carnot de Tunis un professeur d'anglais, qui était un homme admirable, une espèce de saint laïc, mais il était communiste. Bon, je ne sais pas que je jette l'opprobre sur tous les communistes, au contraire, puisque dans le cas précis, c'est un homme qui était à la fois communiste, un communiste très intellectuel d'ailleurs, mais qui, lui, cautionnait les pensées de Moscou, parce qu'il apportait les minutes des pensées, et moi je ne marchais pas. Je disais, c'est pas possible que quelqu'un dise « je suis une ordure, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai trahi mon pays, j'ai trahi les miens pendant des années, enfin, je trouvais ça, j'avais 15 ans, mais je trouvais ça complètement absurde, pas acceptable intellectuellement. Et lui, il s'appelait Psalmon, il est mort maintenant, et lui était désespéré parce qu'il voulait me convaincre de ça. Il apportait les minutes du procès, il me disait « mais enfin, c'est écrit !» Et moi, j'avais 15 ans, je disais « bon, vous savez, si on croyait tout ce que l'on doit écrire... » Enfin, j'étais faible, je n'avais pas de réponse. Mais je ne marchais pas, je ne supportais pas ça. Et le stalinisme, non. Et tout ce qui a été... Vous savez, en gros, je pense que beaucoup d'erreurs, beaucoup d'hésitations, beaucoup d'allers-retours, mais dans l'ensemble, il y a une ligne quand même qui subsiste, c'est que je n'ai jamais accepté ce qui fait mépriser les hommes, mais ce qui les fait annihiler. Ça, vraiment, non. Je pense que de ce côté-là, je n'ai pas à me le reprocher.
C'est pour ça que vous avez dénoncé, bien sûr, le colonialisme et le racisme, que tout au cours de votre vie, dans vos écrits, dans votre vie, vous avez continué de dénoncer. Au fond, c'est ça, la dénonciation du racisme, ça a été ça, votre vie, jusqu'à maintenant.
Au fond, c'est vrai. C'est finalement la dénonciation du racisme, mais tu te... une constante, parce qu'elle est très significative. On m'a souvent demandé, mais pourquoi vous insistez tellement sur le racisme? C'est pas pour des raisons conjoncturelles, c'est parce qu'actuellement c'est redevenu à la mode. Je savais, j'ai écrit 40 textes sur le racisme. C'est parce que il me semble que c'est significatif exactement de la dévalorisation, de la destruction d'une catégorie d'individus. Et je dois vous dire que quelquefois il faut aller chercher le racisme et l'exclusion des gens et le mépris des gens dans des formes qui ne sont pas apparentes.
Comme par exemple?
Oh ben, écoutez, vous voulez que je vous dise des choses. Par exemple, je n'approuve absolument pas que dans certaines ex-nations, jeunes nations qui étaient
décolonisées,
qui étaient colonisées à un certain moment, puis qui sont devenues maintenant libres et indépendantes, et qui se remettent à faire vis-à-vis de certaines minorités qui, en leur sein, des conduites d'exclusion, des conduites de xénophobie, et donc ça me joue des tours, vous savez, parce que je crois que je suis obligé de dénoncer aussi certains de mes anciens amis et qui ne comprennent pas, parce que sur la lancée, dans l'Europe d'ailleurs, les intellectuels de gauche, vous savez à quel point ils sont importants en France en particulier, une espèce de tradition qui est d'ailleurs superbe, hein, je dirais en même temps, parce que ce sont des gens qui viennent de loin, qui viennent depuis le 18e siècle, qui ont toujours dénoncé, mais en même temps, ils ne prennent pas suivi les tours à temps. Alors, par exemple, pour le stalinisme, ils n'ont pas su prendre le tournant suffisamment.
Ils ont fermé les yeux. Souvent.
Ils ont fermé les yeux, ils ont cautionné.
Parce que ça ne correspondait pas au cadre théorique.
Parce qu'ils avaient l'impression que ce faisant, ils pactisaient avec l'ennemi, parce qu'il y a toutes sortes de... Bon, alors, par exemple, quand certaines jeunes nations, puisque mon problème à moi, avec le racisme et la xénophobie, c'est aussi le problème national, au fond. C'est le problème des jeunes nations, l'émergence des jeunes nations. C'est pour ça que j'ai donc, à la suite du colonialisme, d'autres choses, mais... Finalement, le fond du problème, c'est que je voulais que les groupes qui veulent être libres, ben, ils ont le droit de l'être, quels qu'ils soient. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de difficultés, quelquefois très importantes. Mais même dans ça, je ne supporte pas et je n'accepte pas que l'on ne voit pas ou qu'on ne veuille pas voir que quelquefois, il y a des catastrophes à la clé. Vous comprenez? Par exemple, je vais vous donner un exemple, mais vraiment très gros et très embêtant pour moi, qui est vraiment très fâcheux pour moi, parce que inutile de vous dire que je pense que la situation, par exemple, faite au Kanak, en Nouvelle-Calédonie, ou la situation faite, alors beaucoup plus gros, la situation faite aux Noirs dans l'Afrique du Sud, est une chose scandaleuse. Bon, il n'y a pas de problème, pas de doute, il faut que ça cesse. Il faut que l'apartheid cesse. Il n'est pas possible que l'on maintienne une population dans un état de séparation, d'apartheid, enfin le mot est maintenant assez connu, de mépris, et quelquefois même de massacre physique, parce que ça, il arrive qu'il y ait, etc. Bon. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher quand même, voulant voir le problème dans toute sa complexité, de dire, attention, il y a quand même 5 millions de blancs là. On me dit oui, mais ce sont des colonisateurs. Je dis non, ici le schéma n'est pas le même, puisque chaque fois je cherche quel est le schéma, chaque fois quel est le schéma spécifique. Nous l'avons fait à propos du Québec. Une situation n'est jamais totalement identique. Elle est à la fois identique, il y a des mécanismes communs, et en même temps, il y a des choses nouvelles qu'il faut regarder. Mes amis de gauche ne les regardent pas. C'est ça que je leur reproche. Ils ne voient pas chaque fois la spécificité de chaque situation.
C'est parce que c'est trop compliqué à ce moment-là.
Ah,
c'est trop compliqué avec le schéma toujours.
Mais oui, alors il faut y mettre le temps, il faut accepter quelquefois même être mal vu.
Mais voilà, c'est ce que j'allais dire
également.
C'est
ça, il faut accepter être mal vu. Oui. Je vous donnais deux exemples. Lorsqu'il y a eu l'histoire israélo-arabe, elle s'est assise à peine. Moi, je disais, il faut que les Palestiniens soient indépendants, qu'ils aient un État à eux, etc. Mais en même temps, je suis contre la destruction de l'État d'Israël. Il n'en est pas question, parce que les Juifs ont également souffert et qu'il fallait qu'ils aient une indépendance nationale, sinon ils continueraient dans la condition qui fut la leur. Et d'ailleurs, pourquoi tout le monde a une nation et pas les Juifs ? Bon. À ce moment-là, mes amis ne comprenaient plus. Ils disaient, mais enfin comment ? Tu as défendu jusqu'à présent tous les colonisés, maintenant tu ne veux pas défendre les Palestiniens. Je dis, si ! Je souhaite que les Palestiniens soient... est une forme d'autonomie, on discutera le détail de cette autonomie, de cette indépendance et tout ça. Mais cela ne signifie pas que l'on doive pour ça détruire l'État d'Israël. Eh bien, j'ai perdu une partie de mon audience à cause de ça.
Oui. Mais oui. C'est difficile de tenir une position, de tenir une position comme ça, où on tient compte à la fois des uns et des autres. Je veux dire, c'est difficile psychologiquement également, c'est difficile socialement.
C'est psychologiquement très difficile.
Et même, je dirais, moralement.
Et même moralement. Hier, on m'a demandé de venir à la manifestation en faveur des Noirs de Sovieto. J'ai envoyé un message pour me dire que j'étais d'accord, en gros. Mais je dis, attention, il faut quand même que nous pensions tous ensemble maintenant sur le destin des Blancs. Mais ma propre fille, qui est une fille intelligente, qui prépare une agrégation de sciences politiques, en fait, vous voyez, c'est pas du tout des gens qui pensent pas. Il me dit tout simplement, tout froidement, comme tous mes amis de gauche, « Ah ben c'est bien leur tour. » On ne peut pas parler d'un groupe humain en disant « C'est bien son tour. » C'est probablement une catastrophe à vue. Nous sommes en train d'aller vers une catastrophe. Si ces Blancs vont se défendre, il va y avoir du sang. On me dit « Ah ben vous comprenez alors. » Alors là, c'est la vieille histoire. On ne fait pas d'omelette, ça casser les œufs, etc. Dans l'état d'exaspération, c'est les Noirs. Ce qui est vrai.
Oui. Mais dans cette perspective, au fond, qui veut échapper constamment à la dichotomie dans laquelle tombent beaucoup de gens, c'est difficile d'avoir des croyances très militantes.
On peut discuter sur le terme de croyance. Hein. Je ne retiens pas le mot, en général. Nous y reviendrons si vous voulez. Je ne retiens pas le mot de croyance. Je pense que l'on peut avoir un certain nombre de principes directeurs pour une action. Ça, oui. Pourquoi pas? Au contraire, je pense qu'en tenant fermement à un certain nombre de principes directeurs, ou pas très nombreux d'ailleurs, on peut arriver à maintenir une espèce de ligne assez droite. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, le prix que l'on paye pour cela est tel qu'on se fatigue. Je comprends qu'on fatigue d'ailleurs, même avec l'âge, vous savez, avec l'âge on peut se dire après tout, j'ai donné ma part, ça m'arrive de penser comme ça.
J'allais le dire, ça doit vous arriver quand même.
J'ai 60 ans, bon mon Dieu, maintenant j'ai écrit un certain nombre de livres, j'ai dit ce que j'avais à dire, le monde ça ne va pas s'arrêter, et de toute façon ça va continuer, hein, c'est certain, ça va continuer, les gens vont continuer à se massacrer, j'ai dit ce que j'avais à dire, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir d'avoir encore des ennuis supplémentaires, de mettre encore à me disputer avec telle catégorie de lecteurs, etc. J'ai mes lecteurs, que je les garde, chaque fois que je reçois un livre et un certain nombre de gens qui l'achètent, c'est parfait comme ça. Bon, ben mettons que je ne suis pas assez vieux psychologiquement.
Peut-être parce que la blessure de l'humiliation n'est pas guérissable chez vous.
Peut-être l'explication psychologique, que alors la blessure, le coefficient personnel dont nous parlions tout à l'heure est tel qu'effectivement, je ne peux pas renoncer. Cela dit, Bon, je ne veux pas non plus vous donner l'impression d'un jeune homme révolté que j'étais il y a 30 ans. Oui. J'y apporte beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sagesse. Quand j'écoute des propos un peu, que je trouve un peu fous, un peu irresponsables, je ne réponds pas.
Mais vous êtes juif.
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'on peut abandonner quand on est juif?
Abandonner quoi? Ses problèmes, ses difficultés?
Abandonner de se battre, arrêter de se battre.
Oui, il ne faut pas exagérer, il y a des juifs qui ne se battent pas. Vous savez, on ne peut pas...
Mais dans la mesure où ils peuvent toujours redevenir victimes.
Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que certaines situations historiques font que vous êtes bon gré, mal gré, en quelque sorte, dans le panier des victimes. Bon. Donc, de toute façon, vous avez intérêt à vous solidariser avec les victimes, parce que de toute façon, on vous relancera dans le panier, vous ne pourrez pas sortir éternellement du panier. De toute façon, un jour, on vous le reprochera, etc. Donc, et même c'est une question de dignité. Cela dit, si l'étude du racisme a appris quelque chose, c'est de ne pas considérer globalement. Je ne crois pas que tous les juifs soient batailleurs et tous soient... Il y en a beaucoup qui ont renoncé ou qui sont prudents. Ou... Mais enfin, c'est vrai que c'est plus fréquent chez les juifs que chez d'autres.
Mais ils ont toujours dans leur conscient ou leur inconscient. Ils ont toujours cette idée qu'ils peuvent redevenir victimes.
Ah, sûrement. Et l'idée de la justice. La justice historique.
Voilà.
Ah, oui, ça, c'est à peu près certain. Il n'y a pas de... Je vous dirais presque que, à mon sens... Les femmes savent toutes, je dis toutes, hein. Même, je parlais avec une grand-mère l'autre jour, une femme d'un certain âge qui on a l'impression que la vie est déjà faite, totalement faite pour elle, a des petits-enfants, des enfants, bon. Eh bien, elles ont conscience qu'il s'est passé à leur égard une injustice fondamentale. Naturellement, elles ne sont pas toutes révoltées, elles ne sont pas toutes désireuses de devenir MLF et tout ça. Mais elles soupirent, elles disent « Ah, quand même, ils m'ont bien eu, les hommes m'ont bien eu, ton père c'est un brave type, mais quand même, hein, il m'en a fait voir, etc. » Et elles ont l'impression quand même que la partie n'a pas été égale.
Oui. Est-ce que ce n'est pas à travers votre obsession, parce que je pense que le mot n'est pas trop fort, du racisme et de l'injustice, est-ce que ce n'est pas à travers cela que votre vision des femmes s'est modifiée?
Ah, c'est tout à fait probable. Vous avez touché, vous avez fait dans le mille. Hein. Je crois que vis-à-vis des femmes, là, vous m'obligez à un aveu très considérable. Je suis méditerranéen. Et j'appartiens, pire que ça, j'appartiens à un groupement très traditionnaliste, et pauvre en plus. Donc les femmes, elles ont joué un certain rôle, un rôle même important. Elles préparaient elle faisait la cuisine, elle s'occupait des enfants, elle avait un rôle de conseillère, elle était maîtresse des drogues, enfin, elle avait des rôles importants. Mais enfin, elle n'avait pas le dernier mot, ça c'est évident. En plus, c'était les hommes qui étaient toujours dans la hiérarchie supérieure. Et malgré moi, je ne voyais pas à quel point j'étais imprégné de cette histoire-là. Je ne voyais pas. Et c'est seulement, effectivement, quand je suis passé par les colonisés, par les Noirs, par toutes sortes de choses, que j'ai brusquement compris un jour que mon attitude, même la mienne, qui pourtant n'était pas scandaleuse tellement, parce que faisais partie du mouvement de jeunesse où les femmes étaient quand même assez traitées avec égalité, mais que je me suis brusquement aperçu à quel point la condition féminine est une condition fondamentalement scandaleuse également, et profonde, et historiquement scandaleuse. Et donc je suis revenu en effet là-dessus. Et c'est à la suite de quoi d'ailleurs j'ai lancé cette proposition de l'équivalence entre la condition féminine, la condition de colonisé, la condition de noir, etc.
Enfin, oui. Est-ce que vous diriez que c'est cette perception-là qui s'est le plus modifiée dans toutes vos perceptions?
La perception des femmes?
Des femmes.
Peut-être.
Parce que pour les Noirs, pour les Juifs, c'était évident. Pour les Noirs, c'était évident.
Oui.
Enfin, il y a des évidences comme ça pour les gens exploités, pour les peuples exploités.
C'est possible.
Si on vous avait dit ça il y a 25 ans, par exemple, que votre vision des femmes devrait se modifier profondément, avec tout ce que ça veut dire pour un homme, quand même.
Je vous répète là, vous avez touché un point très trouble et très important. C'est peut-être à cause du problème des femmes. C'est assez curieux ce que je vais vous dire. Il y a deux choses. Il y a eu la maladie. J'ai fait une maladie assez grave aux yeux, ça, et la découverte de la condition féminine. Et c'est le rapport à la femme, le rapport à la maladie, c'est au fond le rapport de la dépendance où l'on est de l'effondrement du corps à un moment donné, et l'espèce d'abandon dans lequel on se trouve, l'espèce de péril, l'espèce de on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire, enfin, on est rien. Bon. Dans un hôpital, on n'est rien. Je le dis tout le temps à mes amis médecins qui ne comprennent pas très bien ce que je leur dis. Dans un hôpital, on est zéro. Et il y a là un scandale. Et donc, la nécessité du besoin, on est en besoin de tout le monde, on est besoin de tout. Et d'autre part, lorsque j'ai découvert, pas complètement, la relation avec la femme, à quel point nous sommes à la fois injustes envers elle et à quel point nous avons besoin d'elle. Et cette espèce de faisceau d'idées qui a donné lieu à toute une autre avenue de ce que je cherche, c'est les problèmes de la dépendance, des besoins réciproques, etc. Mais c'est vrai qu'il est probable que la considération de la condition féminine, jointe à d'autres choses, a peut-être modifié, enfin complété, enrichi, modifié, je ne sais pas trop quoi dire, la physionomie globale de l'œuvre. Oui.
Oui, parce qu'on peut être, on peut dénoncer les injustices faites aux Noirs et dans sa vie quotidienne ne jamais rencontrer de Noirs, ou à peu près pas quand on est blanc.
Tandis que
quand on se met à être conscient de l'injustice faite aux femmes, on doit nécessairement modifier ses rapports personnels et quotidiens avec les femmes. C'est pour ça que c'est plus global, non ?
Quotidien. Quotidien, c'est extraordinaire, quoi. Je crois que les hommes ne sont pas assez conscients de ça. Ils ne sont pas assez conscients parce qu'ils ne veulent pas l'être, parce que c'est dramatique comme histoire. C'est trop compliqué. C'est extraordinairement compliqué, parce qu'à la fois, je dis que souvent à mes lectrices femmes, mes étudiants, je leur dis que par ailleurs, ce qui devrait être rassurant pour elles, c'est que les hommes ont peur des femmes en même temps. Ils ont la... Non, ils ont peur. Il y a une espèce
mais
de
la
mystère.
Peur, ça peut provoquer la fuite, ce qui n'est pas mieux pour les femmes.
Ça provoque quelquefois la fuite, vous savez. Les impuissances masculines, ce n'est pas une blague. Hein.
Oui, non, mais c'est ce que je dis. Ce qui n'est pas nécessairement bien pour les
on
femmes.
On parle beaucoup de stérilité chez les femmes, de frigidité, mais on ne parle pas assez des impuissances masculines. Elles sont très nombreuses, très importantes, très complexes. Tout ça. Il y a un mystère féminin, mais pas au sens métaphysique, comme on le disait avant, mais vraiment quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne manient pas, et dont ils ne sortaient seulement que par le mépris, la domination.
Oui.
À partir du moment où on essaye de faire ce que je propose, c'est au fond de comprendre réellement cette affaire-là, de nos relations avec les femmes. Pas seulement en gros en disant, bon, maintenant elles sont dominées, maintenant on va cesser de dominer, hein, et on va renverser la vapeur. Elles veulent des places, eh bien qu'elles en aient. Elles veulent gagner autant, bon, on va s'arranger à ce qu'elles gagnent autant. Enfin, on ne s'arrange pas tellement, mais en gros, hein, oui. On va renégocier les salaires, quoi.
Oui.
Et on a fini. On n'a pas fini du tout. Pas du tout. Parce que c'est une relation millénaire. Une relation millénaire dans laquelle sont engagées à la fois les conduites, sont engagés à la fois les imaginaires, les inconscients. Enfin, c'est très prodigieux comme histoire. Je crois qu'on commence à peine.
Oui. Vous avez reçu une éducation religieuse.
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'elle a été importante pour la suite des choses?
Vous savez, vous posez une question difficile. Est-ce qu'elle a été importante? Elle a sûrement été importante, puisque l'éducation qui est donnée jusqu'à l'âge de 14-15 ans, date à laquelle, âge auquel j'ai commencé à aller dans des mouvements de jeunesse où il n'y avait plus de religion, au contraire, nous étions révolutionnaires, entre guillemets, et tout ça, donc ça a cessé. Mais c'est très important jusqu'à l'âge de 14-15 ans, vous savez, c'est profondément important. J'ai raconté dans mes romans qu'il y a des phénomènes de. Non seulement de rituels, d'abord. La religion, pour moi, très gros, c'est à la fois un rituel et un certain nombre d'attitudes magico-mystiques. Et puis une philosophie, bien sûr. On reviendra sur la philosophie, oui. Si vous voulez.
Oui.
Mais il y a trois moments dans la religion, à mon avis, trois dimensions. Il y a un rituel. La religion est d'abord un rituel, ça on ne le sait pas assez. C'est d'abord une manière d'organiser sa vie. Je suis extraordinairement ritualisé. Vous savez, depuis 30 ans ou 40 ans, je me lève à peu près à la même heure, je prends mon café, je monte, j'ai la chance d'avoir un grenier au-dessus de l'appartement, je monte dans l'appartement et j'écris comme une horloge, où je n'écris pas et je suis au désespoir. Mais enfin, je suis là jusqu'à 1h moins le quart, je descends, je mange, je me repose un peu et commence l'après-midi social, l'université ou les éditeurs, des choses comme ça. Et puis ensuite, je rentre, je lis un peu, je dors, et le lendemain, ça recommence. C'est vraiment une attitude. On ne peut pas dire que ce n'est pas une attitude ritualisée de l'univers, de mon univers, de moi-même.
Mais ce n'est pas une attitude religieuse, ça, quand même.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que la religion a donné aux hommes une réponse, une ritualisation de leur existence. Et je crois que la quasi-totalité des croyants, ils sont pratiquants, on dit. Pratiquants, ça veut dire qu'ils pratiquent un rituel. C'est ça que ça veut dire. Deuxième étape, c'est un certain nombre d'attitudes, je ne veux pas dire magiques, si, il faut bien le dire, je pense que quand même magiques, de peur, de froid, d'attirance, de répulsion, qui se traduisent par on mange ci, on ne mange pas cela, on jeûne à tel moment, on ne jeûne pas, on mange, on ne dit pas certains mots parce que. Enfin, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a jusqu'à une date très récente, dire le nom de Dieu blasphémé. On vous arrachait la langue, enfin. Ou on vous jetait du plomb fondu dans la gorge. Et c'est d'ailleurs, ça veut dire que les gens qui faisaient ça mouraient de peur eux-mêmes. Et au point, ils avaient entendu une chose épouvantable qu'il fallait éradiquer par le plomb fondu ou par couper la langue de la personne ou le mettre sur un bûcher ou des choses comme ça. C'est vraiment une peur très très enracinée. Le troisième, et là est-ce que je l'ai? Mais oui, bien sûr, je l'ai jusqu'à présent. Oui, ben c'est vrai, ma femme qui n'est pas juive, qui est d'origine catholique, universitaire, tout ça maintenant, et qui pense qu'elle a dépassé tout ça, c'est pas vrai. Mais enfin, elle pense, elle, qu'elle a dépassé tout ça, se moque de moi en me disant que si je ne mange pas certaines choses, c'est parce que dans mon enfant, je ne les mangeais pas, dans ma famille.
Par exemple, parce que vous mangez du porc?
Oui, tout à fait. Je dois même vous dire que le lard, tout ça, absolument délicieux. C'est une découverte grâce à ma femme. La choucroute, c'est une chose merveilleuse. Enfin, j'ai découvert des choses.
Mais est-ce qu'en le faisant, vous ne rompez pas, vous ne brisez pas l'interdit? Est-ce qu'il y a certainement, est-ce qu'il y a un peu de ça?
Il y a certainement de ça, en ce sens que, je vais vous dire, je ne bois pas de lait. Je ne déteste le lait, par exemple. Bon, il y a toutes les explications. J'ai été allaité, paraît-il, jusqu'à 2 ans ou 2 ans et demi. C'est possible qu'il y ait une histoire de mère, un rapport à la mère. Enfin, bon, pas rentrer dans les détails de ce genre. Mais c'est vrai aussi qu'on ne mangeait pas chez nous le lait avec de la viande. Mmh, c'était exclusif. Donc, c'est vrai qu'il me paraît, au fond, une espèce de scandale affectif que l'on mette une bouteille de lait avec de la viande sur la table. Bon, mes fils le font, parce que ils adorent boire du lait, ils en boivent toute la journée, et pour eux, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, ça fait tilt. Il y a quelque chose qui marche pas.
Et sur le plan philosophique, en terminant?
Alors, le troisième niveau, c'est le plan philosophique. La religion est une réponse. Est une réponse, ou une tentative de réponse, à un certain nombre de problèmes posés par l'existence. Bon, ici, honnêtement, je ne vais pas tourner autour du pot. Vous ne le comprendriez pas après cette révolte et cet essai de vérité, de recherche de la vérité et tout ça, que je ne vous dise pas la vérité là-dessus. Ce ne sont pas mes réponses. Bon, je ne crois pas, honnêtement, qu'il existe un monsieur très puissant, barbu de préférence, dans le ciel, qui règne sur l'ensemble de sur la marge de l'univers, et qu'il y a une explication théologique de la marche du monde, que l'origine de la Terre s'explique par la création, par ce même personnage. Enfin, tout ça, c'est pour moi, ce ne sont pas de vraies réponses. Mais la religion est une tentative de réponse par ce système. Oui, c'est exact.
Mais vous ne vous y référez pas, vous?
Non, pas du tout. Je veux dire qu'il est certain que devant un problème, devant une difficulté, devant une question, et j'en ai beaucoup de questions, je ne les escamoterai pas non plus.
Donc vos questions sont sans réponse, en un sens.
Mes questions sans réponse. Est-ce que j'ai de commun avec les croyants? J'étais interrogé par un pasteur il y a quelques jours à une radio protestante, et il m'avait dit, enfin, êtes-vous croyant? Il m'avait posé la question un peu de manière abrupte, parce que j'étais pas préparé. Et on avait parlé pendant 1 heure, et puis vraiment à moins 5, il m'a dit, êtes-vous croyant? J'ai été surpris comme ça, j'ai dit non. Il était déçu. Après une conversation qui était très amicale, très détendue, on était d'accord sur beaucoup de choses, tout ça. Et puis je lui ai dit, écoutez, monsieur le pasteur, quand même, vous n'avez pas vu à quel point nous sommes proches sur les questions. Je ne suis pas quelqu'un qui dit que ces questions n'existent pas. Je pense que ces questions existent. Et de ce côté-là, je suis très près des croyants. Je pense effectivement que nous ne savons pas d'où nous venons. Nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas quelle est l'origine de la vie. Nous avons des problèmes considérables. Je ne suis pas un scientiste au sens où je dis la science vous donnera demain l'explication de tout. Je n'y crois pas. Je pense que c'est une espèce de drame philosophique. Je pense vraiment qu'il y a un certain nombre de drames philosophiques. Ce que je dis simplement, c'est que les réponses que vous me donnez, vous, ne me paraissent pas suffisantes. Elles me paraissent...